Voilà, donc nous sommes samedi saint. Donc si vous voulez bien, c'est une petite causerie, hein, toute simple. On va parler de trois petites choses. D'abord le tombeau de notre Seigneur, puisque aujourd'hui notre Seigneur est au tombeau. Ensuite, on dira un mot de Notre-Dame, puisque ce jour lui est consacré tout spécialement, le samedi saint. Et puis enfin, on dira pourquoi notre Seigneur devait apparaître en premier lieu à sa Sainte Mère, alors que les évangiles n'en parlent pas du tout. Mais il y a une convenance très importante et c'est une tradition bien attestée. Alors d'abord, quelques mots sur le tombeau de notre Seigneur. Ce tombeau de notre Seigneur, c'est le lieu où il va ressusciter dans quelques heures, et puis c'est le lieu de l'attente de cette résurrection. Et les pères de l'Église y ont vu un symbole. Ce tombeau, c'est le symbole, le double symbole du sein de la Vierge Marie et du sein du Père éternel. Dans l'évangile de Saint Jean, au tout début, dans le prologue, on lit ça, non pas dans l'évangile qui est à la fin de la messe, c'est le verset qui est juste après. Peu importe. Saint Jean dit « Unit genitus qui est in sinu patris ». Il parle donc du Fils unique, du Verbe, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est dans le sein du Père. Ce sein du Père, d'où notre Seigneur sort pour venir s'incarner. Et puis le sein de la Vierge Marie, dans lequel notre Seigneur s'est trouvé pendant les 9 mois qui ont précédé sa naissance à Bethléem. Et dans ces 3 cas, que ce soit le tombeau, le sein du Père ou le sein de la Vierge, ce sont des lieux vierges, justement. Le tombeau de notre Seigneur, vous savez, était un tombeau neuf. C'était le tombeau que s'était réservé Joseph d'Arimathie, qui était un riche sanhédrite. Et c'était donc situé dans un jardin, juste au pied de l'endroit du supplice, du calvaire. C'est aujourd'hui dans la même église, l'église du Saint-Sépulcre, recouvre à la fois le lieu de la crucifixion et le lieu de la sépulture de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à côté de ce qu'on appelle l'anastasie, c'est-à-dire le sépulcre de notre Seigneur, c'est un édifice aujourd'hui qui a été reconstruit par les orthodoxes au XIXe siècle ou à la fin du XVIIIe, parce que la grotte originelle a été détruite dès l'an 1008 par les musulmans. Il n'en restait que des vestiges que les croisés avaient restaurés. Ils avaient construit un petit édicule qui imitait le tombeau avec ses 2 pièces. Vous savez que dans les tombeaux juifs, il y avait 2 pièces, au moins dans les tombeaux des riches. Il y avait une première pièce qui était vide, et puis la deuxième pièce dans laquelle il y avait des loculi pour mettre les corps, ou alors une tablette qui était creusée dans l'épaisseur de la pierre, qui était comme surmontée d'un arc, un peu comme les enfeux de nos églises romanes ou de nos églises gothiques. Alors notre Seigneur était posé sur cette tablette. Donc les musulmans ont détruit tout l'ensemble. Sainte Hélène avait précédemment, quand elle a construit le Saint-Sépulcre, elle avait retaillé en quelque sorte le rocher pour que tout ça tienne dans l'église, et que la montagne, il avait fallu un petit peu l'écarrir. Et quand les musulmans ont détruit tout ça, ils ont laissé néanmoins la tablette. Mais ils ont détruit la grosse pierre d'entrée, et puis la première pièce, et puis une grande partie de la voûte de la deuxième pièce. Alors les croisés ont restauré un édicule qui imitait un peu la grotte, qui était un édicule de style roman. Et comme tout ça ensuite, avec le temps, a été détruit, abîmé, brûlé, il y a eu un incendie très grave. Les orthodoxes, quand ils ont pris possession du lieu, ont reconstruit un édicule, celui qu'on voit aujourd'hui, qui est connu, on le voit sur toutes les photos, bon, qui n'est pas très heureux, qui n'est pas très beau, qui est très massif, mais enfin qui imite le tombeau de notre Seigneur avec les 2 pièces qui sont à la suite l'une de l'autre. Et dans la première pièce, il a été remis une espèce de petite colonne, qui est une colonne carrée, en fait, qui est creuse, et dans laquelle il a été placé tous les restes de pierre, de la grosse pierre ronde qui fermait le sépulcre, qui a été détruite donc en 1008, et on a récupéré les divers éléments, et on les a placés là dans cette petite colonne, un petit peu comme dans un reliquaire, si vous voulez. Voilà. Donc ce tombeau était neuf, c'était un tombeau vierge. Donc le tombeau de notre Seigneur est un tombeau vierge. Le sein de la Vierge Marie est un sein vierge, bien sûr. Notre Seigneur, en naissant, n'a pas du tout souillé le sein de la Vierge Marie. Elle est restée vierge avant, pendant et après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis le sein du Père aussi est d'une pureté, d'une virginité parfaite. Alors, dans le sein du Père, notre Seigneur naît à la vie divine. C'est ce qu'on lit dans le psaume 2, « Odie genuite, aujourd'hui je t'ai engendré ». C'est ce que dit le Père en parlant à son Fils. C'est un psaume messianique. Et ce texte, saint Paul l'utilise à plusieurs reprises. D'abord pour signifier la génération éternelle du Verbe, mais aussi pour signifier sa génération temporelle, dans la crèche, le jour de Noël, et aussi pour signifier sa résurrection. Et encore, d'ailleurs, saint Paul l'utilise aussi pour l'appliquer au sacerdoce de notre Seigneur. Comme prêtre, notre Seigneur est né aussi, d'une certaine manière, puisqu'il est devenu prêtre en prenant la nature humaine. La nature humaine a été ordonnée prêtre par son union avec la nature divine. Voilà. Donc on peut dire que du sein du Père, notre Seigneur naît à la vie divine, du sein de la Vierge, il naît à la vie mortelle, et du tombeau, du sein du tombeau, il naît à la vie immortelle, puisqu'il va ressusciter. Voilà. Et en attendant, notre Seigneur est là, dans ce tombeau, son corps du moins est là, son âme, elle est montée au limbe, mais son corps est là, toujours uni à sa divinité. Alors, on applique à notre Seigneur des versets de psaume, « Caro mea requiescet in spe », chantez ça aujourd'hui, « Ma chair repose dans l'espérance, il est dans l'espérance de la résurrection ». Et puis encore, ce qu'on chante tous les jours accompli d'ailleurs, « In pace in idipsum dormiam et requiescam », dans la paix, je dormirai et je me reposerai. Notre Seigneur est dans une paix parfaite, ses souffrances sont achevées, sa sainte âme va porter toutes les joies du paradis aux saints qui étaient au limbe, les saints de l'Ancien Testament, qui attendaient ce jour, ce moment, pour pouvoir être libérés de cette prison, en quelque sorte, entre guillemets, cette prison des limbes, puisque tant que notre Seigneur n'avait pas souffert sa passion, le ciel était fermé. Le ciel s'est fermé à cause du péché, il fallait que notre Seigneur le rouvrit pour que les âmes puissent à nouveau, puissent commencer à pénétrer dans le ciel. Donc le corps de notre Seigneur attend ce moment de la résurrection. Alors tout ça, on peut l'appliquer à nos âmes, puisque nous aussi, nous devrons connaître un jour la résurrection des corps. Au jour du jugement dernier, à la parousie, notre Seigneur ressuscitera nos corps, nous jugera, et pour les justes, ce sera l'occasion de la vie éternelle, âme et corps, nous aurons retrouvé notre corps, et pour les damnés, ce sera les supplices éternels de l'enfer. Alors, on peut dire que nous participons, nous aussi, au mystère de la sépulture de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le propre de la liturgie, justement, de nous appliquer tous les mystères de la vie de Jésus, y compris ce mystère de la sépulture. Il y a une application qu'on peut faire. Chaque mystère de notre Seigneur opère en nous quelques ressemblances de notre Seigneur, et y compris donc cette mort au tombeau. Alors, saint Paul le dit à deux reprises, ça. Il le dit d'abord dans l'Épître aux Colossiens, au tout début, au chapitre 3, verset 3. Il s'adresse aux chrétiens. « Vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. » Alors, nous sommes morts au péché. C'est la mort spirituelle, enfin la mort qui est opérée par la vie spirituelle, la mort au péché. C'est ça qui est signifié ici. Et votre vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. La vie surnaturelle, tant que nous sommes ici bas sur terre, elle est comme cachée. Elle est intérieure. Elle n'est pas visible. Et c'est une vie cachée, un petit peu à l'imitation de la vie cachée de Jésus à Nazareth. Elle est cachée en Dieu, puisque c'est une vie surnaturelle. Et elle est avec Jésus-Christ. Donc voilà notre statut. Si nous sommes en état de grâce, nous sommes morts au péché, nous ne sommes plus, comme disait saint Paul, ténèbres, nous ne sommes plus fils de colère, nous sommes désormais rachetés, mais notre vie surnaturelle, c'est une vie de foi. Elle ne connaît pas encore la gloire, donc la visibilité qu'elle connaîtra au ciel. Et puis saint Paul dit encore, alors juste après, quand il continue, il dit « Mortui estis et vita vestra est abscondita cum Christo in Deo », c'est ce que je viens de vous lire. Et oui, la suite, en fait, n'a plus vraiment de rapport. Hein, voilà, c'est ce que je viens de vous lire, en fait. Hein. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et puis, par ailleurs, saint Paul, dans un autre texte, c'est l'Épître aux Romains, cette fois, au chapitre 6, va évoquer la même réalité, la réalité de la sépulture de notre Seigneur, pour dire que c'est par le baptême que nous sommes introduits dans cet état, cet état de vie cachée, de vie de foi cachée avec le Christ en Dieu. C'est par le baptême. Il dit « Cont sepulti sumus cum illo per baptismum ». Nous sommes ensevelis avec lui, avec notre Seigneur Jésus-Christ, par le baptême. Et effectivement, le rite du baptême symbolise parfaitement ça. On le voyait beaucoup plus d'ailleurs dans le rite primitif qui était un rite par immersion. C'est-à-dire que le baptême maintenant se fait par infusion, simplement. On verse quelques gouttes d'eau sur le front de l'enfant ou le front du baptisé en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Mais dans l'Antiquité, les baptistères étaient des cuves qui étaient creusées dans le sol avec un certain nombre de degrés pour y descendre. Il y avait 3 degrés, c'était des cuves octogonales, hein, et toutes entourées de 3 marches. Alors le baptisé descendait d'un côté jusqu'au fond de la cuve, alors la cuve n'était pas très profonde, hein, où là donc il était immergé dans l'eau baptismale, et ensuite il remontait de l'autre côté pour symboliser la vie divine qui désormais envahissait son âme et la résurrection des corps qui est encore à venir, qui est un effet du baptême aussi, mais un effet qui est comme suspendu tant que nous sommes ici-bas sur terre. Donc vous voyez, ce rite de l'immersion symbolisait parfaitement ce que dit saint Paul. Nous sommes ensevelis, cont sepulti, avec lui. C'est un mot, un néologisme que saint Paul a créé là, cont sepultus. Ça n'existe pas. Si vous le cherchez dans le dictionnaire, sepultus, oui, ça existe, mais cont sepultus, nous sommes enterrés avec le Christ, nous sommes au tombeau avec le Christ, communion, en communauté avec lui, et cela par le baptême. Et saint Paul continue, ut quomodo Christus surexit a mortuis, pour que, de la même manière que le Christ est ressuscité des morts, ita et nos in novitate ambulemus, de la même manière que nous marchions désormais dans la nouveauté, dans une vie nouvelle. Quand nous sortons du baptistère, baptisés avec la grâce qui habite notre âme, le péché originel étant aboli, étant lavé, étant effacé, ben il faut marcher dans cette vie nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a un progrès qui doit s'opérer. Il faut marcher vers le ciel. La vie chrétienne, c'est la loi même de la vie chrétienne, c'est une loi de croissance. Il faut devenir des saints. Voilà, alors on peut appliquer, vous voyez, cette vie au tombeau de notre Seigneur, on peut nous l'appliquer. C'est l'état dans lequel nous sommes présentement, entre le moment de l'ascension de notre Seigneur et le moment de la parousie. Tous les chrétiens sont dans cet état. Tant qu'ils ne sont pas morts, ils vivent ici-bas, comme unis à notre Seigneur au tombeau, d'une vie de foi, cachée en Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, en attendant la résurrection des corps, qui sera l'effet ultime de leur baptême, mais qui est encore à venir, qui est suspendu tant que la parousie n'a pas eu lieu. Et puis on peut faire une application spéciale de tout ça à la vie religieuse, parce que la vie religieuse n'est pas une vie qui est essentiellement différente de la vie chrétienne, de la vie du baptisé. C'est la même chose, c'est la même perfection à laquelle le religieux ou le baptisé sont appelés, la perfection de la charité. Il faut devenir des saints, tous, autant qu'on est. Ce sont les moyens qui diffèrent. Pour le religieux qui fait des vœux, les moyens sont différents. Il s'oblige, par les vœux de chasteté, pauvreté, d'obéissance, à renoncer à un certain nombre de biens, qui sont des biens légitimes, pour pouvoir aller plus facilement, plus rapidement et plus sûrement au ciel. Donc c'est comme un prélude déjà de la vie du ciel. Mais le but reste le même. Donc il y a une mort au monde qui est beaucoup plus marquée, une mort au péché qui est beaucoup plus marquée encore que dans la vie du baptisé. Même si déjà le baptisé doit être mort au monde et mort au péché. Et c'est vrai pour tout le monde ça. Mais les moyens qu'emploie le religieux le coupent d'une certaine manière encore davantage de la vie du monde. Parce qu'il a renoncé au bien terrestre, il a renoncé au mariage et il a même renoncé à sa volonté propre. ces trois choses qui sont tout à fait légitimes, mais qui peuvent être, et on le sait par expérience, tous autant qu'on est, des obstacles considérables pour aller vers le bon Dieu et pour devenir des saints. On peut être attaché aux richesses, on peut être tellement préoccupé par les soucis de la vie familiale et de l'éducation des enfants ou de la vie qu'imposent tous les devoirs de la vie conjugale, on peut être tellement sollicité par tout ça qu'on en oublie un peu le bon Dieu. Et puis a fortiori, la volonté propre, qui est source de tous les caprices, peut être un obstacle considérable pour marcher vraiment, librement, vers le bon Dieu. Alors le religieux a davantage de liberté. C'est paradoxal. Il est encore plus contre sepultus, enterré avec le Christ, et il est plus libre. Vous voyez, la vraie liberté chrétienne, c'est ce qui nous libère des esclavages de cette vie. Et ça demande justement une certaine mort à tout ce qui nous rend esclaves. C'est paradoxal, mais c'est très profond. Et c'est très vrai, ça. Pour être libre, il faut commencer par s'attacher. S'attacher à notre Seigneur pour être détaché de tout ce qui nous écarterait de lui et qui nous empêcherait d'être vraiment libre avec lui. Alors, pour conclure ce premier point, tout ce que nous venons de dire là, je vous lis ce que le Père Emmanuel, dans ses méditations pour tous les jours de l'année liturgique, dit à propos du dimanche de Pâques. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire. Au sein du Père, Jésus naît une foi qui dure toujours. Et par cette naissance, il est Dieu immortel, la génération éternelle. Au sein de Marie, Jésus est né une fois pour toujours. Et par cette naissance, il fut un homme mortel. Et il reste aujourd'hui avec son corps au ciel, le verbe incarné désormais. Au sein du tombeau, Jésus naît aujourd'hui, une fois pour toujours, et par cette naissance, il est un homme immortel. Le Père est vierge, Marie est vierge, le tombeau de Jésus est vierge. Ô splendeur des naissances de Jésus, ô Dieu né de Dieu, lumière de lumière, ô Dieu fait homme né de Marie, ô Dieu sauveur, mort sur la croix, et aujourd'hui né du tombeau pour ne plus mourir. Vous voyez comme l'analogie est très belle, hein, au fond. La première naissance de Jésus a pour son temps l'éternité et elle est pour nous la source de la gloire. La gloire, c'est pour le ciel. La seconde a pour son temps la nuit de Noël et elle nous apporte la grâce. Ici-bas, c'est le temps de la grâce. Au ciel, nous connaîtrons la gloire. Ici-bas, nous connaissons la grâce. La troisième a pour son temps une aurore de printemps et elle nous ouvre le passage de la grâce à la gloire. Pour passer de la grâce à la gloire, il faut passer par la mort, il faut passer par le tombeau. La mort naturelle, la mort du corps. Adorons ces splendides mystères, adorons Jésus naissant du Père, naissant de Marie et renaissant aujourd'hui victorieux de la mort. Voilà, c'est ça que aujourd'hui nous méditons pendant toute cette journée. Alors le deuxième point, si vous voulez, de cette petite causerie, c'est de dire un mot de Notre-Dame en lien avec ce jour qui lui est consacré. Notre-Dame, on l'a médité hier et puis tout au long de cette semaine, elle a été au pied de la croix, hein, juxta crucem, tabat juxta crucem. Elle se tient debout, tarée, c'est se tenir debout, tarée. Et elle est juxta crucem, elle n'est pas loin, elle est vraiment tout contre la croix. Pourquoi ? Parce qu'elle est corédemptrice. Les théologiens disent qu'elle est socia Christi redemptoris, associée au Christ rédempteur. Donc elle est corédemptrice. Alors pas au même titre que le Christ, c'est évident. Le Christ, c'est lui et lui seul qui nous a acquis la rédemption, qui a satisfait pour nous, qui a mérité toutes les grâces dont nous pouvons jouir, bénéficier, et puis qui nous a ouvert le ciel. Mais il a voulu, tout comme Dieu a voulu au départ que Adam ait une associée, une compagne simile, qui lui soit semblable à lui-même, Ève, hein, au premier Adam, Dieu a associé la première Ève, et bien de la même manière, à Jésus-Christ Adam, Dieu a voulu associer une nouvelle Ève, la Vierge Marie, non seulement pour qu'elle soit sa mère, mais aussi pour qu'elle soit son associée dans toute l'œuvre de notre salut. Alors même si la Vierge Marie n'a opéré tout ça que dans la dépendance de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et sous Jésus-Christ en quelque sorte, elle l'a vraiment réalisé. Alors au tombeau, que fait Notre-Dame ? Elle n'est pas dans le tombeau, elle est restée sans doute dans sa maison, chez elle ou à Jérusalem, on ne sait pas trop où, mais elle concentre en cette heure toute la foi de l'Église. Les apôtres, ils ont fui, ils ont disparu, ils sont ébranlés. On sent bien d'ailleurs, il y a comme un poids de tristesse, un petit peu d'abattement dans toute le collège apostolique et auprès des disciples. On le voit très bien quand on va lire de lundi l'évangile des disciples d'Emmaüs. Ils sont découragés. Ils pensaient que notre Seigneur allait rétablir le royaume de Dieu, le royaume temporel même, à Jérusalem. Alors, ils ont l'impression que tout s'est écroulé. Et même si les apôtres avaient entendu plusieurs fois notre Seigneur parler de sa résurrection, prophétiser tout cela, bon, ils le savent, mais c'est plus fort qu'eux. La tristesse l'emporte, ils sont un peu désemparés, ils y voient plus clair. La Vierge Marie, elle, dans une paix parfaite, elle attend la résurrection parce qu'elle sait très bien que cette résurrection va avoir lieu. Elle le sait d'une certitude absolue, d'une certitude de foi et d'une certitude d'espérance. Vous voyez, notre Seigneur ne pouvait pas être pour nous un modèle de foi et d'espérance. Parce que notre Seigneur, à la vision béatifique, même dans sa vie humaine, ici-bas, quand il était sur cette terre, même quand il était sur la croix, en proie à des souffrances terribles, il voyait son Père. Donc il ne croyait pas, il le voyait. On ne peut pas voir et croire en même temps, le même objet, la même réalité. C'est ou l'un ou l'autre. Mais la vision exclut la croyance. Même au plan humain, tous autant qu'on est, il y a des tas de choses qu'on croit. Il n'y a pas simplement les choses de la religion, les choses de la foi. Par exemple, nous ne sommes jamais allés au Japon ou en Chine, mais on a lu tout ça dans nos livres de géographie. Nos professeurs nous ont appris que le Japon et la Chine, ça existe, et ils nous ont montré des cartes, tout ça, et on le croit. Pourtant, on n'a jamais dévisu, été là-bas, on n'a jamais touché le sol de la Chine ou du Japon. Enfin, peut-être certains d'entre vous, oui, mais pas moi en tout cas. On le croit, on ne le sait pas. On le croit. Alors que ceux qui y habitent, eux, ils le savent, parce qu'ils l'expérimentent tous les jours. Ils sont sur le sol, leurs pieds touchent ce sol, qui est le sol chinois ou le sol japonais. Pour les trois quarts des réalités, des connaissances que nous avons, ce sont des connaissances qui nous sont données par la foi, par une croyance. Sauf à partir du moment où on en a une évidence, parce qu'on a vu les choses, alors là, c'est plus pareil. Ça chasse la croyance. L'évidence prend la place de la croyance. Alors Notre-Dame, elle croit à ce moment-là. Elle n'a pas vu encore notre Seigneur, mais elle sait qu'il va ressusciter. Elle le sait pertinemment, parfaitement, mais par la foi. Et comme notre Seigneur ne pouvait pas être pour nous un modèle de foi, parce qu'il avait la vision béatifique, qui va être pour nous ce parfait modèle de foi dont nous avons absolument besoin? Parce que nous vivons dans la foi. Dans un clair-obscur, on n'est pas encore au ciel. Eh bien, c'est Notre-Dame. Notre-Dame va être ce modèle extraordinaire que Dieu nous a donné, qui, en quelque sorte, nous montre l'archétype de ce qu'est la vraie foi, la foi intègre, la foi parfaite. Et pareil pour l'espérance. Notre Seigneur, ayant la vision béatifique, possédait déjà la vie du ciel. Il y était en tant que Dieu. Donc, il ne pouvait pas avoir l'espérance. C'est une vertu que notre Seigneur n'avait pas. C'est Notre-Dame qui est pour nous le modèle de l'espérance. Donc elle est modèle de foi, modèle d'espérance. Alors il faut se demander quels étaient les sentiments de Notre-Dame quand elle était au pied de la croix, puis après, quand elle attendait la résurrection, alors que notre Seigneur était au tombeau, hein, qu'elle l'avait reçu dans ses bras, le corps de notre Seigneur mort, qu'elle l'avait donné à Nicodème et Joseph d'Arimathie pour qu'il l'embaume et qu'il le place dans le tombeau. Quels étaient ses sentiments? Ben d'abord, au pied de la croix, vous voyez, elle est debout. Debout, c'est-à-dire dans l'attitude de la prière. Nous sommes habitués à voir l'attitude de la prière, l'attitude à genoux. On prie à genoux, c'est vrai. On voit bien d'ailleurs à Gethsémani, notre Seigneur, c'est Saint-Luc qui le dit, est tombé à genoux pour prier. Mais les anciens priaient debout aussi. La prière de demande, notamment, la prière de supplication, ou la prière de contemplation, c'est une prière debout. C'est l'attitude de la prière. Et Notre-Dame ici, au pied de la croix, comme après, pendant tout le samedi saint, elle est vraiment l'image, le modèle de la vie contemplative. Parce qu'elle est immobile. Elle se livre à l'unique nécessaire. Les évangiles ne nous disent pas que Notre-Dame s'est affairée, qu'elle a été achetée des aromates, qu'elle s'est préoccupée du linceul, que quand elle était au pied de la croix, elle a interpellé telle ou telle personne, qu'il fallait faire telle ou telle chose, il fallait interpeller les soldats pour qu'ils donnent l'éponge à boire à notre Seigneur quand il a crié « j'ai soif ». Non, rien de tout ça. Elle est immobile. Elle adhère à la volonté du Père, mais de manière parfaitement immobile, parfaitement pacifiée. Et pourtant, elle est dans une douleur terrible, parce que c'est son propre fils, et parce que ce fils, elle sait que c'est le fils de Dieu. Et elle connaît, elle aussi, même si c'est un pressentiment qui reste un petit peu confus, elle connaît l'inutilité du sacrifice de notre Seigneur pour beaucoup d'âmes. C'est pour les âmes que notre Seigneur fait tout ça, et que Notre-Dame fait tout ça. Elle connaît, elle souffre dans son cœur tout ce que notre Seigneur a souffert dans son corps. On peut dire que tous les coups de marteau, le coup de lance, les épines, tout ça, elle l'a ressenti cruellement dans son âme. C'est son Gethsémani à elle. « Mon âme est triste à en mourir », disait notre Seigneur à Gethsémani. La sueur était une sueur de sang qui coulait jusqu'au sol. Eh bien, on peut dire que Notre-Dame a connu ça au pied de la croix et pendant toute la passion de notre Seigneur, à sa manière. Donc, ces sentiments, ce sont les sentiments, le modèle même de la vie contemplative, de l'âme contemplative. Autour d'elle, tout le monde s'active. Nicodème, Joseph d'Arimathie sont des modèles de la vie active. Ils sont tous au service de notre Seigneur. Ils veulent lui rendre honneur, hommage, le déposer dans un tombeau neuf, lui mettre des aromates, lui mettre un linceul tout neuf qui vient d'être acheté, etc. C'est magnifique, c'est très beau. Mais ce que fait la Vierge est beaucoup plus beau encore. C'est l'unique nécessaire. Elle contemple tout ça et elle adhère à la volonté du Père. Et puis on peut dire qu'elle remplit son office de mère vis-à-vis de son fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et vis-à-vis de nous, parce que c'est au pied de la croix qu'elle est devenue notre mère. Dieu l'a déclarée telle et l'a voulu telle. On peut dire que dès son fiat, au jour de l'Annonciation, elle a été un petit peu comme marquée comme devant être notre mère, mais c'est au pied de la croix vraiment qu'elle l'est devenue. Elle a enfanté à ce moment-là, dans la douleur, tous ses enfants, alors que son fils premier-né, notre Seigneur Jésus-Christ, elle l'avait enfanté sans douleur. Elle enfante Jésus dans l'acte de son immolation. Jésus, c'est-à-dire le corps mystique. Tout le corps mystique est comme enfanté par Notre-Dame quand elle est au pied de la croix. Donc elle remplit vraiment son office de mère. Et d'une manière qui est extrêmement douloureuse pour elle. Elle enfante dans la douleur toutes ces âmes qui ensuite recevront la grâce et pourront un jour connaître la gloire. Il lui avait été dit par le vieillard Siméon, vous vous souvenez, au jour de la présentation de Jésus au temple, « Cet enfant est pour la chute et la résurrection d'un grand nombre. Un glaive de douleur transpercera votre cœur. » Cet enfant est pour la chute et la résurrection d'un grand nombre. Cet enfant, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, et elle voit bien, elle, Notre-Dame, que beaucoup de ces âmes qui sont ses enfants vont chuter, vont achoper contre eux, ne vont pas croire, ne vont pas recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Cet enfant est pour la chute et la résurrection. Elle voit aussi tous ceux qui, au contraire, croiront, accueilleront notre Seigneur et qui du coup seront sauvés. Donc un grand nombre dans les deux cas. On peut dire que certainement cette vérité déchire le cœur de Notre-Dame. Et tout ça parce qu'elle est mère de Dieu. C'est ça qui fonde cette mission, cet office de mère qu'elle remplit au pied de la croix. C'est parce qu'elle est d'abord mère de Dieu. Alors je voudrais vous citer un petit exemple très beau qui est pris dans la Sainte Écriture et qui nous permet de toucher un petit peu du doigt les sentiments de la Vierge Marie quand elle était au pied de la croix et quand elle priait pendant tout ce samedi saint. C'est l'exemple de la mère des sept frères martyrs Maccabées. Vous connaissez cette histoire dans le livre des Maccabées, hein ? C'est une très belle histoire. C'est dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 7, à partir du verset 20 jusqu'au verset 41, qui nous raconte cette histoire. Alors voici comment s'exprime l'auteur du livre des Maccabées. Éminemment admirable et digne d'une illustre mémoire fut la mère qui, voyant mourir ses sept fils dans l'espace d'un seul jour, donc tous les sept ont été martyrisés, le supporta courageusement en vertu des espérances qu'elle plaçait dans le Seigneur. Vous voyez, c'est une figure de Notre-Dame au pied de la croix. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères et remplie de nobles sentiments, elle animait d'un mâle courage son raisonnement de femme. Elle leur disait à ses enfants, « Je ne sais comment vous avez apparu dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie. Ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous. Aussi bien le Créateur du monde, qui a formé le genre humain et qui est à l'origine de toute chose, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie parce que vous vous méprisez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. Donc ces enfants qui ont accepté généreusement ce martyr, vous voyez, c'est leur mère qui les a encouragés. Voilà, c'est ce que fait Notre-Dame. Elle nous encourage. Mais elle n'est pas là à gémir sur son propre sort. Elle ne pas là un petit peu comme ces femmes de l'Antiquité dans les cas de deuil, il y avait eu comme une coutume qui voulait que des pleurs, des cris, des manifestations très très visibles, très extérieures de deuil, on se lamentait sur soi-même, on se roulait, on déchirait ses vêtements, on dénouait ses cheveux. Enfin, Notre-Dame fait rien de tout ça. La Mater Dolorosa qu'on honore, la Pietà, c'est pas une espèce de je ne sais pas comment dire, enfin, de ces furies antiques qui transformaient le deuil en une espèce de scène atroce, enfin, on pourrait presque dire un petit peu folklorique. Alors, le texte continue un peu, je saute un petit passage. Il s'agit du septième de ses fils, le plus jeune. Au moment où il va être mis à mort, le roi Antiochus Épiphane veut engager la mère à donner à son fils des conseils pour qu'il sauve sa vie, pour qu'il ne soit pas mis à mort. Donc elle voudrait que la mère trahisse sa foi et qu'elle encourage son fils aussi à apostasier. Alors donc le roi l'exhorte longuement pour qu'elle agite en ce sens. Alors voici ce qu'elle fait. Elle se pencha donc vers lui, son fils, et mystifiant le tyran cruel, elle exprima de la sorte dans la langue de ses pères. « Mon fils, aie pitié de moi qui t'ai porté 9 mois dans mon sein, qui t'ai allaité 3 ans, qui t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es, et qui a pourvu à ton entretien. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre et vois tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a faits de rien et que la race des hommes est faite de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, mais te montrant digne de tes frères, accepte la mort afin que je te retrouve avec eux dans la miséricorde. » Elle encourage son fils à mourir. On pourrait dire, mais c'est un sentiment qui paraît contraire à ce que la nature exige. Eh bien non, parce que c'est mourir pour Dieu. Eh bien c'est ce que fait Notre-Dame. Notre-Dame nous encourage à être fidèles jusqu'à la mort aux grâces de notre baptême, aux promesses de notre baptême. Et elle nous le dit un petit peu dans les mêmes termes, voyez. Aie pitié de moi qui t'ai porté 9 mois dans mon sein et qui t'ai allaité 3 ans, etc. Nous tenons notre vie surnaturelle de Jésus-Christ, bien sûr, mais aussi de Notre-Dame. C'est elle qui nous a enfantés. Mais au nom de cet enfantement qui lui a coûté tant de douleurs au pied de la croix, elle nous conjure d'être fidèles jusqu'à la mort et ne pas trahir la foi jurée au jour de notre baptême. C'est très beau. C'est un exemple auquel on ne pense pas, mais c'est une belle préfiguration de la Vierge Marie. On cite souvent Judith, Esther, enfin, toutes ces grandes femmes de l'Ancien Testament, la mère des Maccabées, elle aussi. Alors, on pourrait un petit peu élargir le propos en disant que c'est spécialement vrai, tout ce que je viens de vous dire, dans les temps troublés, dans les temps où l'Église est spécialement attaquée. Parce que quand l'Église est attaquée, Notre-Dame le prend pour elle. Elle est le type de l'Église. Et elle est le cœur de l'Église. Le corps mystique, c'est-à-dire notre Seigneur, l'Église, autrement dit, notre Seigneur, pas simplement dans sa personne physique, mais dans sa personne mystique, qui inclut tous les membres de l'Église, toute l'Église, tout entière. Cette Église, elle a une âme, c'est le Saint-Esprit, et elle a un cœur, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie est le cœur de l'Église. Elle concentre dans son cœur, en elle-même, toute la foi de l'Église et toutes les richesses qui sont celles de l'Église. Et donc, elle veut protéger tout ça, le garder. C'est elle qui a reçu, dès le moment du premier péché, cette mission toute particulière, toute spéciale, d'écraser la tête du serpent. Ipsa conteret. C'est par elle que notre Seigneur, que Dieu, écrase la tête du serpent. Alors, dans les temps troublés, elle opère cette mission. Tout spécialement. Le père Calmel a écrit dans Itinéraire un petit article qu'il a appelé Notre-Dame des temps de l'Antéchrist et de ses précurseurs. Notre-Dame du temps de l'Antéchrist. On peut dire que dans les temps de trouble, dans les temps où on a l'impression que l'Antéchrist règne, l'Antéchrist, pas forcément lui-même, mais tous ses précurseurs, les temps de persécution pour l'Église, spécialement quand la persécution est morale, mentale, et que c'est une persécution qui vise la foi et pas seulement les corps, Notre-Dame est spécialement présente. Et elle agit, elle intercède d'autant plus pour ses fils qui sont spécialement menacés, parce que c'est ses enfants. Une mère ne peut pas ne pas protéger ses enfants. Elle est jalouse de l'amour et de l'intégrité de ses enfants. Je vous signale d'ailleurs que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait très bien compris ça. Elle disait « Je voudrais vivre au temps de l'Antéchrist. » Pourquoi ? Ben pour intercéder pour toutes les âmes alors menacées, pour pouvoir remplir vraiment un office de prière, d'encouragement, de lutte, pour être un petit peu sur le front. Et les âmes vraiment généreuses, elles veulent être là quand il y a une bataille, et au cœur de la bataille, au premier plan, pour défendre vraiment l'honneur de la vérité. Alors on peut dire que si Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus réagissait comme ça, a fortiori la Vierge Marie, elle a très à cœur de spécialement intervenir. Elle est médiatrice de toute grâce, elle intervient dans tous les cas, tout le temps, pour tous les temps, pour nous tous, mais spécialement dans les temps de trouble, dans les temps de persécution. Alors nous sommes dans un temps comme ça aujourd'hui. On peut dire que le tombeau, c'est aussi un petit peu l'image de ce qui se passe aujourd'hui, le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ, ce samedi saint. L'Église connaît sa passion, et il semble aujourd'hui qu'elle est un peu au tombeau. Elle est méprisée, maltraitée, elle n'est pas du tout honorée, on cherche à l'oublier, on cherche à l'enterrer. Le père Calmel, en fait, appliquait tout ça à la crise de l'Église, crise liturgique, la nouvelle messe, la crise de la foi. Les choses se sont beaucoup aggravées depuis le temps où il écrivait ces choses. C'est un article qui date de, je ne sais pas trop quelle année, ça doit être dans les années 70, 71, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus tard. Mais a fortiori aujourd'hui, on est vraiment dans une situation comme ça. Pour terminer, je voudrais vous dire un petit mot, alors c'est peut-être des choses que vous connaissez déjà, mais c'est toujours beau de se le redire. Pourquoi est-ce que notre Seigneur est apparu à sa mère? Ou est-ce que notre Seigneur devait apparaître à sa mère, d'abord, avant même d'apparaître à ses disciples, pour se manifester glorieux après sa résurrection? Et pourquoi est-ce que les évangélistes ne disent rien à ce propos-là? Alors, on peut dire qu'il y avait une très forte convenance à ce que notre Seigneur apparût d'abord à sa mère, avant d'apparaître aucun de ses disciples, avant de se manifester au monde. Une très forte convenance, on peut prendre cette convenance du côté de la Vierge Marie elle-même et du côté de notre Seigneur. Ces deux raisons se cumulent. Du côté de la Vierge Marie d'abord. Notre-Dame, donc comme elle avait été justement associée à son fils d'une manière toute spéciale, quand notre Seigneur souffrait, il est bien normal qu'elle soit aussi présente et qu'elle soit récompensée au même titre que notre Seigneur au moment de la résurrection. Sainte Jeanne d'Arc disait un petit peu ça en parlant de son étendard. Son étendard qui avait été à la peine, il fallait aussi qu'il soit à l'honneur. Mais on peut dire que Notre-Dame a été à la peine, il faut qu'elle soit la première, elle aussi, à l'honneur. C'est un motif qui est important. Elle avait participé à la passion de Jésus, jusqu'à des profondeurs de souffrance qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas sonder. Eh bien, il fallait qu'elle soit la première inondée des grâces de la résurrection. Alors ça, c'est la première raison prise du côté de Notre-Dame. Il y a une deuxième raison prise du côté de Notre-Dame, c'est que notre Seigneur, même au moment où il ressuscitait, restait le fils de Marie. Plus que jamais même. Ce n'est pas parce qu'il ressuscitait à une vie nouvelle qu'il avait cessé d'être le fils de Marie. On pourrait en effet objecter que pour sa naissance dans la crèche, la Vierge Marie était nécessaire. Il fallait bien qu'elle soit là. Pour la résurrection, elle n'était pas là. Elle n'avait pas besoin d'être là. Pour ce qui est de la résurrection, c'est Dieu qui agit directement. Notre Seigneur, en tant qu'il est Dieu, s'est ressuscité lui-même, sans aucun intermédiaire, sans passer du tout par la Vierge Marie. Donc, puisqu'elle n'était pas nécessaire, on pourrait dire, après tout, notre Seigneur n'avait pas besoin de se manifester à elle d'abord. Mais si, parce qu'il restait, même si sa résurrection est son fait à lui, en tant qu'il est le Fils de Dieu, il restait pour néanmoins le fils de Marie. Il l'était et il continuait de l'être. Sa vie nouvelle n'était que le refleurissement sous une forme glorieuse de la vie humaine puisée en sa mère. C'est son corps qui est ressuscité, qui a retrouvé son âme. Et ce corps, il le tenait de la Vierge Marie. Donc il était tout à fait logique qu'elle soit associée là aussi, même si ce n'était pas de la même manière qu'à la naissance. Sa chair transfigurée n'avait pas changé de nature, et c'était celle dont Marie lui avait fourni les éléments. Par suite, tout en faisant descendre jusque dans sa chair la clarté qu'il possédait de toute éternité comme fils de Dieu, notre Seigneur ne cessait pas d'être le fils de Marie. Alors pour ces deux raisons, vous voyez, il y avait une convenance tout à fait forte à ce que la Vierge Marie soit la première prévenue et que la première, elle puisse jouir de la vue de son fils ressuscité. Et puis si on prend les choses du côté de notre Seigneur, bah, c'est une raison qui est évidente, une raison de piété filiale. Notre Seigneur devait beaucoup à sa mère et il la chérissait d'une manière qui pour nous est impossible à vraiment comprendre, d'ailleurs à réaliser parfaitement. Donc on imaginerait difficilement que notre Seigneur ait oublié sa mère au moment où il ressuscite et au moment où il va avoir le souci justement de conforter ses disciples, de les rassurer, de les encourager, de leur communiquer sa paix. On voit notre Seigneur là agit d'une manière qui est quasi maternelle un peu vis-à-vis de ses disciples après sa résurrection. Il va petit à petit un petit peu les conforter, les éclairer. Eux qui ont été ébranlés, ils ont besoin justement d'être un petit peu rassérénés. Eh bien, notre Seigneur ne pouvait pas ignorer que d'abord sa mère méritait un petit peu les mêmes choses, même si elle n'avait pas été ébranlée de la même manière. Alors pourquoi maintenant, et pour terminer, pourquoi les évangélistes n'en parlent pas? Eh bien parce que c'était tout à fait en dehors des objectifs qui étaient les leurs. Il faut bien comprendre le but de l'évangile. Ce que l'évangile cherche à faire, c'est de nous montrer la réalité et de la divinité de notre Seigneur, par les miracles qui sont rapportés, et de son humanité. Notre Seigneur est vraiment né, il est le Fils de Dieu, et il est vraiment ressuscité. Et les apôtres sont les témoins de cela. Il fallait qu'ils en soient les témoins. Ils n'ont pas assisté à la résurrection, mais ils ont vu le Christ ressuscité. Ils ont pu le toucher, ils ont mangé avec lui, ils ont été en sa compagnie. Et du coup, ils peuvent témoigner ensuite de la réalité de cette résurrection auprès de toutes les foules et auprès de nous. Et ils le consignent dans les évangiles. Les évangiles consignent tout ça. Notre-Dame n'avait pas besoin de tout ça. Nous, on en a besoin. Les apôtres en avaient besoin. Comme ils en avaient besoin et qu'ils en ont compris l'importance, ils l'ont consigné pour nous. Parce que nous aussi, on en a besoin. Mais le cadre du récit évangélique se limite à ça. C'est ça son but, c'est ça son objectif. La Vierge Marie, elle est dans un autre ordre en quelque sorte. Et donc l'apparition de notre Seigneur à sa mère avait un caractère trop intime, trop personnel pour rentrer dans ce cadre. Le but que se donne notre Seigneur est étranger au fait de la nécessité d'apporter un témoignage. Notre-Dame n'en avait pas besoin. Elle savait que notre Seigneur allait ressusciter. Elle le croyait. Et elle le croyait d'une manière absolument certaine. Donc elle n'avait pas besoin de ce témoignage. Et il n'était pas nécessaire que cette apparition soit rapportée. Ça n'aurait rien rajouté au témoignage que les évangélistes ont laissé, ont consigné. Donc la Vierge Marie était trop liée, unie à notre Seigneur Jésus-Christ pour être le témoin de Jésus. Elle est mieux que le témoin de Jésus. Elle est sa mère. Et on peut dire qu'elle est un peu quelque chose de notre Seigneur Jésus-Christ et que notre Seigneur est quelque chose d'elle. Elle confine à la Sainte Trinité. Elle est dans un autre ordre qui dépasse infiniment tous les questionnements, les réflexions que nous pouvons nous faire à nous-mêmes ou les problèmes que nous posons. Notre-Dame dépasse tout ça et elle est hors de ce cadre-là. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, on s'est résumé à grands traits, il y aurait possibilité de beaucoup développer. Le silence des évangiles s'explique parfaitement sur cette question-là. Mais ça ne veut pas dire, parce que les évangiles sont silencieux sur l'apparition de notre Seigneur à sa mère, que pour autant elle n'a pas eu lieu. La tradition y a toujours cru, et à bon droit, à juste titre. Et je pense qu'il faut le croire aussi l'esprit moderne très critique veut que s'il y a silence sur certains faits, ben, il n'y a pas de raison de croire à ces choses-là. Et même au contraire, il faut les exclure parce que ça relève d'une mariologie majorante, trop importante, trop sentimentale. C'est de la bonne mariologie, ça. C'est pas de la mariologie sirupeuse ou sentimentale. C'est des faits qui reposent sur le dogme et qui reposent sur des réalités très profondes que sont les sentiments de notre Seigneur pour sa mère et les sentiments de sa mère pour notre Seigneur. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent avec la foi catholique, et non seulement cohérent, mais tout à fait... c'est certain. J'arrête là, je ne prolonge pas. Profitons bien de cette journée pour faire comme Notre-Dame, rester dans le silence, prier, contempler notre Seigneur, le remercier, prendre conscience un petit peu de tout ce qu'il a fait pour nous, de la profondeur de ces mystères que nous avons vécus là pendant ces deux jours et que nous vivrons encore demain, le mystère de Pâques qui vient clôturer tout ça. Ça dépasse largement toutes les capacités de l'entendement humain. C'est pour ça qu'il faut, dans le silence de la prière, vraiment contempler ces choses-là et laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans nos âmes, faire que tous ces textes, tous ces mots, toutes ces choses, tous ces chants, toute cette liturgie pénètrent jusqu'au fond de l'âme et y fassent son œuvre, pour que petit à petit, à travers les lumières de la foi, on puisse non seulement goûter, mais comprendre de mieux en mieux, comprendre par une espèce de connaturalité, comprendre avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'âme, avec les yeux de la foi, comprendre vraiment la profondeur de tous ces mystères. Pas simplement rester à la surface. Voilà, ainsi soit-il.